podcast.com. Essaye ça.
Dans mes erreurs les plus pires, je veux pas connaître Terrain again. Je veux juste que tu me dises bonjour, bienvenue à Terrain Basique, le podcast le plus québécois sur Magic the Gathering. Mon nom est Tommy Godette et cette semaine, on est accompagné par Jason et le très mystérieux Étienne Laurando. Ça va, Étienne?
Bonjour à vous, bonjour à vous. Oui, ça va bien, ça va bien, merci.
Je sais pas trop c'est quoi tu fais là, c'est une trouvaille.
La dernière fois que tu es venu, tu dis que tu voulais plus rien savoir de Magic. Magic, c'est de la merde. Je veux plus toucher à ça. Ça, c'était en 2019, là.
Oui, ben oui.
Je te donne une idée. Puis là, te revoilà, qu'est-ce qui se passe?
Tout cela est encore vrai, mais j'ai eu une rechute aiguë, pas si aiguë que
bon,
ça, mais une petite rechute.
Ça arrive à personne,
dans,
ça.
Dans le carton, écoute, j'ai été attiré telle la lueur d'une lune fourrée à l'Eldrazi. Je me suis retrouvé face au carton si tentant.
Comment c'est arrivé, là? Raconte-nous ça.
Ouais, ben écoute, c'est assez
qui
simple.
Qui t'a fait nous tomber dedans, là?
Il y a comme deux facteurs. Le premier facteur, c'est que après, je pensais pas que vous pensiez que j'allais parler de ça, mais après toutes les allégations d'harcèlement chez Blizzard Activision, j'ai tout désinstallé mes jeux Blizzard, donc Hearthstone, qui faisait partie de ma diète vidéoludique régulière, parce que les jeux de cartes, j'aime ça, tu sais, c'est comme, je peux pas en jouer, puis Hearthstone, j'avais comme continué à jouer ici et là, puis l'espèce de mode, il y avait un mode un peu automatisé là, qui était vraiment cool aussi, puis j'ai tout arrêté ça à cause que ça me tentait pas d'encourager cette compagnie-là, puis l'autre choix comme jeu, c'est Arena. Parce que toutes les autres sont pas aussi bien faits. C'est pas aussi bon. T'sais, même s'il y a des lands dans Magic Arena, c'est quand même mieux que tous les autres jeux de cartes. Puis j'en ai essayé pas mal. Puis j'en ai fait même des solos, genre Slay the Spire, qui est excellent. Je vous recommande fortement ce jeu. Mais c'est pas pareil.
C'est pas Magic en carton, là. C'est Magic Arena.
Laisse-moi finir.
Oh!
Avant que tu continues, Étienne, excuse-moi, mais on va dire salut Andy qui vient de nous rejoindre. Salut Andy.
Salut Andy.
Ouais. Ah ouais, écoute, chaque jour est un cadeau.
Andy, il est prêt pour le mariage à Olivia Voldaren. Il a coupé sa barbe.
Ah, il est propre.
Ouais, je vais me faire un habit deux pièces puis tout, puis donner un vampire.
Continue, Étienne.
Oui.
Fait que c'est ça. Donc, puis là, entre-temps ou pas, entre-temps, en même temps, parallèle, j'ai un de mes amis qui travaille dans un magasin de cartes Magic, c'est un jeu société très connu à Montréal. Puis il entendait ses collègues parler de Magic, puis lui aussi, il était comme moi. Puis à un moment donné, il a comme flanché. Il nous a proposé de coter sur une boîte de Forgotten Realms pour drafter. Et on a coté. Fait que on va drafter du Forgotten Realms dans pas long. On l'a pas encore fait, mais ça s'en vient incessamment cette soirée-là. Donc, il y aura le carton sera officiellement retourné dans ma vie dans quelques semaines. Pas juste le digital.
Est-ce qu'il y a une fataliste, le pauvre gars, quoi.
Ah ouais, c'est tough, man. En plus, tu sais, j'avais tout mon speech, il était rendu rodé, là, pourquoi Magic, c'était de la merde, puis tout. Pis là, je peux plus l'utiliser.
Tu peux, mais tu vas avoir l'air un petit peu moins conseillé.
Ouais, c'est ça, je vais être comme un...
Tu peux, au pire, t'as rien qu'à dire que tu retestais la voir si ça avait changé.
Ouais, tu voulais vérifier tes...
Non, ça pourra jamais changer. Comme moi, c'est plus profond que juste comme des trucs de set ou des affaires de même. Là.
Fait qu'on dirait que c'est plus quelque chose que tu as réglé avec toi-même qu'un problème de Magic, là.
C'est peut-être les deux. Je pense que j'ai tellement une relation houleuse avec ce jeu qui ne cesse d'être dans ma périphérie ou que
ben je joue plus directement. En plus, c'est un ami là, qui t'a tendu la promesse d'un draft.
Ben tu sais, c'est parce que moi, j'aime ça jouer aussi là, comme overall, puis les board games aussi en général. Puis c'est comme Magic, c'est le fun parce que tu sais, c'est moi qui explique les board games, puis quand t'arrives dans la soirée de Magic, je peux pas expliquer rien. Ça, c'est quand même un gros, un gros plus. Là. Comme, tu sais, la logistique de Magic, c'est une méga force. Là. Tu peux aller jouer souvent, c'est facile. T'sais. Le monde savent jouer, il y en a des cartes partout. Tout, le monde, il y en a. Fait que ça, c'est comme une force indéniable, mais c'est comme sans, ça n'a pas rapport avec le jeu en tant que tel, le gameplay, mais c'est inévitable. Là. Tu peux pas...
C'est rendu un langage universel.
Là, ouais, exactement.
Faut pas qu'on entende comme une espèce d'appel à l'aide. Là. T'es quand même à l'aise avec tout ce qui est en train
de faire. Ah oui, je m'assume totalement.
OK, c'est bon.
De toute façon, avec mon associé Jonathan Bédard, on s'est dit qu'avec notre premier million, on s'achèterait un Power 9 chacun. Fait que voilà.
Oh, ben, con, là. Mais ça, c'est vrai que c'est comme un investissement aussi.
Oui, ben ça, tu perds pas d'argent quand t'achètes ça.
Ouais, exactement. Ben écoute, merci. C'est quand même pas mal cool de te revoir à
Terrain Basique. Je suis content de vous voir. Terrain Basique, c'est quand même un podcast que j'aime beaucoup et que j'écoute une fois de temps. Le lore du Sphinx, c'est toujours bien agréable à
digérer. Ben oui. Puis d'ailleurs, on va en avoir en deuxième partie d'émission une autre grosse tranche.
D'accord.
Ben oui, Jason, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu me parles de la trame sonore qui est en train de jouer en background.
Ben écoute, vu que ce soir le thème c'est Crimson Vow, les noces de sang, donc j'ai mis la trame sonore du jeu Blood sorti en 97, un clone de, je pense que c'est Duke Nukem, ils ont pris le moteur de Duke Nukem pour l'adapter, c'est très inspiré par les jeux comme les films comme Evil Dead. Tu joues un méchant là, dans le jeu Blood, puis c'est un immortel qui veut se venger. Hein, on n'a jamais vu ça nulle part. avec des armes, tu sais, les armes dans le jeu-là, c'est un pitchfork, une canette de spray net avec un lighter, une poupée voodoo. Un jeu que j'ai beaucoup de plaisir à revisiter souvent. Puis c'est un shooter. Puis écoute, j'aime bien la trame sonore. Elle va fitter avec ce que je vais vous parler en deuxième partie.
Ouais.
Mais avant de se lancer là-dessus, j'invite les gens, ceux qui ont rejoint notre podcast récemment, googlez Terrain Basique, l'homme qui n'aimait pas Magic. C'était la première apparition d'Étienne Laurendeau. Puis il t'a gaulé ça là, pendant une demi-heure. Vous allez l'entendre.
Vous allez arrêter de jouer à Magic.
Ouais, vous allez arrêter de jouer à Magic après avoir écouté cet épisode-là. Là. C'est assez frappant.
Ça les vend
encore Magic qui meurt. Ouais, c'est ça.
Ah,
c'est
sinon, cool, j'aimerais faire une annonce pour un tournoi que je vais participer à la fin du mois. Donc, c'est organisé par Old School Montréal au bar L'Adversaire, le bar Emmanuel, le 25 novembre. Il va y avoir un tournoi de format Two-Headed Giant. Ça, c'est du 2 contre 2. Donc, c'est à partir de... Ça commence à... Je crois que c'est l'heure... C'est... Ils ont oublié de mettre l'heure. Fait que d'habitude, c'est à 19h. On attend... Là, généralement, on est une douzaine de personnes. Donc, on imagine que ça va augmenter un peu plus vu que c'est du 2 contre 2. Format Two-Headed Giant, là, c'est... Tu partages le pool de vie, mais tu peux te consulter sur qu'est-ce que tu as dans ta main. Puis c'est comme un tournoi en duel, mais du 2 contre 2. Donc, moi, j'ai l'intention de descendre à Montréal pour celle-là. Puis je vous invite à vous joindre à nous.
Les étapes se font en même temps aussi. Là. On fait chacun notre attaque en même temps. On fait. Puis là, il y en a un qui peut avoir des monstres, puis bloquer pour les deux. Puis
le but, c'est de builder le deck en conséquence. Puis la règle, ça s'appelle format unifié, c'est-à-dire que. La construction du deck, tu peux pas avoir, dans le fond, l'équipe de deux, tu peux pas avoir plus que quatre fois la même copie de la carte sauf les basic lands. Autrement dit, tu sais, comme tu peux pas avoir 8 lightning bolts dans l'équipe, tu peux juste avoir 4. Il y a cette limitation là.
En théorie, un two-headed giant, tu peux jouer tout seul à ça, parce que étant donné que les deux decks, tu peux les regarder.
Ouais, tu peux te pointer avec deux decks, mais c'est pas ça le fun.
C'est pas aussi fun. 14 cartes,
genre. C'est pas aussi fun. Mais c'est faisable, tu sais, en théorie.
En tout cas, c'est le 25 novembre au bar L'Adversaire sur la rue Sainte-Catherine, métro Pinneuf ou métro Vio. On a bien du fun à jouer à Magic. C'est les jeux du soir, souvent.
Fait que L'Adversaire s'est rendu le pit à Magic.
Oui, L'Adversaire s'est rendu la place à Montréal si tu veux voir des Power Nine sur des tables avec des bières dangereusement proches à côté.
Un rond de bière sur la sleeve du Black Lotus, là, c'est toujours bien chill.
Puis les proxys sont acceptés là, pour ceux qui seraient un petit peu trop intimidés, là, mais on a pas mal de fun. Là. C'est assez casual comme format. Là. Les gens aiment beaucoup essayer des affaires là, comme... on appelle ça le roploplo, là, c'est du deck casual singleton, on en fait pas mal aussi là.
Okay.
Voilà, c'est dit.
C'est l'annonce.
Vous allez trouver assez facilement l'adresse de l'adversaire, c'est sur Sainte-Catherine, dans l'est de Montréal.
Oui, tapez pas l'adversaire sur Google.
Ben oui, c'est ça, puis vous direz salut à Emmanuel, sauf que il est là dimanche.
Et le mercredi pour les quiz.
Les quiz, les soirées quiz, bon.
Une activité hors Magic que je recommande.
Tu peux.
Il paraît que ça brasse.
Puis toi, t'es-tu bon dans les quiz, Étienne?
Ça dépend du sujet, mais à mon travail, on fait souvent des quiz cinéma, puis genre, souvent, je gagne.
Ouh!
Mais si c'est sur d'autres sujets, des fois, j'ai un peu plus un blind spot.
Ben oui,
j'en ai une pour toi, Étienne.
Vas-y.
Dans quel film est apparue la première fois la mention que pour tuer un vampire, faut que tu l'exposes à la lumière du soleil?
Ah, les fameux films d'horreur, mon blind spot à moi.
Oh!
Alors, laisse-moi penser, ça serait-tu un Dracula de Hammer ou c'est moins vieux que ça?
C'est plus vieux que ça.
C'est plus vieux que ça? OK, Nosferatu d'abord.
Oui, Nosferatu. Parce que dans le fond, Nosferatu, il a pris le livre de Dracula de Bram Stoker, il l'a adapté en film, mais il avait peur des droits d'auteur, fait qu'il a pris quelques petites libertés. Puis dans Nosferatu, au lieu de se faire tuer par un pieu dans le cœur, il l'expose à la lumière du soleil et là, il disparaît par un très laid effet spécial de 1922.
Donc, dans le roman original de Dracula, Dracula, il peut aller chiller sur la plage. Puis c'est comme...
ben, on le voit dans Bram Stoker.
Ouais, Dracula, il n'y a pas de problème avec le soleil. Ouais,
il y a des lunettes fumées, genre. Il y a des lunettes fumées parce que...
Je me souviens de cette scène-là.
C'est vraiment le vampire qui a peur du soleil. Ça vient vraiment de Nosferatu.
Ah, d'accord.
Bon, Colin, il n'y a jamais trop tard. Hein? Puis après ça, il a fallu attendre la madame là, qui a fait... Le Anne vampire Rice. De 117 ans là, qui couche avec la petite de 16 ans.
Anne Rice.
Non.
Twilight.
C'est Twilight.
T'imagines les discussions qu'ils ont.
Évolue,
hein?
Là. Ouais, okay. Il y a une évolution.
Tu sais, sa blonde, il dit de quoi? Puis comme, j'ai pas autant ri depuis que j'ai soupé avec Abraham Lincoln.
Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun malaise, en tout cas.
Aucun malaise. 145 ans, puis 15 ans, ça va bien en forme.
Fait que ça nous amène à la carte de la semaine, Jason. Voilà la carte de la semaine. Hein. C'est une présentation de l'Abyss. www.labyss. Sinon, ben, vous pouvez aller sur place. Colin, j'ai même pas ouvert la page. Faut que je me rappelle pas de l'image, de l'adresse par cœur. Y a-t-il quelqu'un qui a l'adresse par cœur?
Jean Talon,
S. Ouais, c'est ça, c'est Jean
Talon. À côté du Walmart.
Vous êtes amateur. 44,90.
Tu prends la pinot vers le nord, puis ça t'amène au coin.
44,90, rue Jean Talon S.
C'est ça, métro Saint-Michel, puis ça marche après. Sinon, ben, quand vous achetez en ligne, vous pouvez utiliser le code de promo TB2021 et vous aurez 10% de rabais sur tous les produits scellés. Là-dessus, ben, on remercie Bond parce que c'est lui qui nous fait le beat qu'on s'en va écouter pour s'en aller à la carte de la semaine. Fait que c'est quoi la carte de la semaine? C'est qui l'a choisi cette semaine?
C'est moi qui l'ai choisi. Wizard of the Coast a décidé de régler un problème. Tu sais, moi pis toi, Tommy, là, ça fait longtemps qu'on joue à Magic. Fait qu'on sait que la couleur la plus forte, c'est le blanc. Hein?
Oui.
D'accord avec moi?
Totalement d'accord.
Le blanc est tellement fort que dans les dernières années, Wizard s'est mis à carrément négliger le blanc. Fait qu'ils ont mis plus de puissance dans les autres couleurs. Puis effectivement, là, dans les 3-4 dernières années, le blanc, dans les 7 des dernières années, était moins fort. Là, ils commencent à soigner le pendule de l'autre bord. Là.
Ouais, ils gossent Arena le blanc.
Ouais, puis une carte qui sort avec le Commander relié avec Crimson Vow, qui est la carte de la semaine de cette semaine, qui est une façon justement de ramener la balance de l'autre côté. C'est l'anneau de mariage, le Wedding Ring, est-ce que vous voyez à l'écran?
Mm-hmm.
Parfait. Yep. Le Wedding Ring est un artefact mythique 2 colorless, 2 blancs. Quand il rentre sur le battlefield, s'il a été casté de ta main, un target adversaire va créer une copie de ton Wedding Ring. Dans le fond, tu choisis... Ça, c'est une carte de multiplayer, hein, by the way. Tu peux jouer en duel, là, mais c'est pointless. C'est une carte de multiplayer. Donc, ton adversaire se crée une copie de ton Wedding Ring. Dans le fond, tu te maries avec quelqu'un qui est autour de la table. À chaque fois que... À partir de là, à chaque fois que cet adversaire-là que tu as targeté, avec qui tu t'es marié,
pige une carte.
Pige une carte. Toi aussi, tu piges une carte. Puis à chaque fois qu'un adversaire qui a aussi la copie de Wedding Ring gagne de la vie, toi aussi, tu gagnes de la vie. Donc, le but, c'est vraiment si tu vas viser le gars autour de la table que tu sais qui celui qui pige le plus de cartes et gagne le plus de vie. Puis tu peux le follower comme une espèce de parasite. L'important, c'est de garder ton wedding ring et la copie sur le battlefield. Moi, je pense que cette carte-là, ça va rendre... Il y a beaucoup de mauvais préjugés envers le blanc en Commander à cause de son manque de draw a card.
Ben oui, ben c'est ça, j'étais pour dire.
Parce que le blanc est la couleur qui pige le moins de cartes dans toutes les cinq couleurs. Mais ça, je trouve que c'est une façon originale de représenter comment du card draw peut se faire en blanc. Puis, ben, ça fit dans le plot qu'on va continuer de l'autre bord du Beat-a-Bone, qui est le mariage de Olivia Voldaren.
Moi, j'ai une question pour cette carte.
Oui, vas-y, Étienne.
Si quelqu'un d'autre a le Wedding Ring, car ce n'est pas légendaire à ce que je vois. Non, parce que là, ça vient l'apocalypse, puis là, il y a quatre personnes qui sont mariées ensemble, genre.
Ben oui, t'as-tu un préjugé contre la polygamie?
Aucun problème avec ça. Mais c'est surtout une question.
Si tu fais un copy artifact sur ton Wedding Ring, tu peux même aller l'attacher à quelqu'un d'autre.
Puis, effectivement. Oui, c'est.
Ça fait que là, ça vient la foire à la saucisse, quoi.
Ah oui, c'est la foire à la saucisse.
Il y a des blinks aussi qui font que tu enlèves.
Tu le ramènes
as if it was cast.
Tu peux faire un autre token.
Une autre copie. Fait que là. T'es marié avec.
Ouais, mais ce qui change. Ah ouais, c'est ça. Parce que ça change pas le nombre d'artefacts qu'il y a sur la table, là, parce que tu piges tout le temps juste une carte, là, mais c'est pas comme si tu t'en pigeais quatre, là, mettons. Mais
l'important, c'est de copier ton wedding ring pour demander.
Exactement,
plusieurs.
C'est que t'aies plusieurs personnes que
mais même juste le wedding ring ouais. tout seul, je veux dire, tu sais, en multiplayer, il y a quatre de casting cost, t'es capable de sortir ça le tour.
Oh, ouais, mettons, ça, c'est comme un. En multiplayer.
Ouais. <C'est...
rire> mais elle est pas mythique, hein. La couleur, c'est doré, elle est rare.
C'est une rare. Bon, on verra c'est quoi ça va donner. Hein? Est-ce que ça va tuer Magic encore? Hein? Il paraît que...
Non.
Magic passe son temps à mourir.
Attention, les gars, il paraît que se marier, c'est la corde au cou. Fait qu'on verra. Ah, peut-être que Magic va se marier et décéder ensuite. Hein?
Magic, c'est la carte qui a un ou table, genre, pour ressusciter. Là.
Si Magic a survécu
Magic passe son temps à mourir.
Sanguignolante, et ça survivra à tout.
Ouais, probablement, un peu comme les bitcoins. Je pense que ça va nous amener à la fin du segment de la carte de la semaine. Merci beaucoup, Jason. On découvre tranquillement, pas vite, le nouveau set qui s'en vient. Très hâte de voir ça. On va en découvrir un peu plus de l'autre bord du Beat à Bow. En es-tu l'autre bord du Beat à Bone? Je pense que oui, Jason!
Ça serait, oui! Écoute!
Bring the lore!
Crimson Vow, la dernière fois qu'on s'est... Écoute, c'est... Je suis très gêné d'apparaître dans vos speakers aujourd'hui.
Ouais, t'as dit plein de niaiseries, hein, la dernière fois.
Toutes mes prédictions que j'avais faites pour Crimson Vow, j'avais fait plein de prédictions, j'avais fait plein de calls, mais j'avais mis mon pin sur la table. J'avais dit, voici ce qui va se passer dans le prochain set. Écoute, il y en a aucun des calls qui s'est avéré vrai. Même celui qui va se marier, je me suis gouré. Genre totalement. Mm-hmm. J'avais callé que c'était Sorin, le Planeswalker, qui allait se marier à Olivia Voldaren. J'avais callé qu'il y aurait du Snow Permanent parce que c'est maintenant le Eternal Knight sur le monde d'Innistrad. J'avais callé... C'est quoi les autres affaires que j'avais callé?
Mais t'avais callé qu'elle allait avoir le retour de Manet, je pense.
Non, c'était le retour de Spectacle. Ouais, ou Bloodthirst. Ça n'est pas arrivé non plus.
Oh là là.
Écoute, j'avais même vu...
Le Sphinx! Dehors le Sphinx, on en veut un autre. Étienne, t'es rendu notre nouveau Sphinx. Parle-nous de l'or.
Vas-y, Étienne, faut pas que tu nous expliques... j'avais callé qu'elle allait avoir le flashback à nouveau.
Vrai.
Encore une fois, je me suis gouré. Bref, toutes les calls que j'avais faites, c'est pas vrai, c'est pas ça qui s'est passé. Faire un petit récapitulatif dans Midnight Hunt, on se rappelle, le jour est en train de disparaître, ça va être la nuit éternelle. les sorcières en alliance avec l'église de Sigarda essaient de faire un gros rituel pour ramener le soleil, mais Olivia Valdarène, la vampire, fait échouer le rituel et c'est maintenant la nuit éternelle sur Innistrad. Donc, le set de Crimson Vow, ils ont notamment enfin complété le set de ce qu'on appelle là, les Checklands.
Les couleurs, là.
Qui sont les nouveaux Double Lens. Probablement, je pense, les meilleurs Double Lens depuis longtemps. Là. C'est les fameux Lens qu'ils rentrent sur le Battlefield on tap si tu as deux autres Lens ou plus. C'est je pense que c'est les meilleurs Lens depuis les Shock Lens de retour.
Alors,
de
tap, ça tape
mieux, mieux que des Fetch?
Non, c'est...
Non, c'est pas la même chose.
Que
c'est
ça.
Ce que je veux dire, c'est que c'est un fetch, c'est pas vraiment un double end. Ça c'est un.
Non, ça, mais ça sert.
Si t'as. Quand il rentre sur Battlefield, si t'as deux autres lands ou plus.
Non, moins.
Il va. Si t'as moins plus. Que deux lands, pardon, excuse, dans le fond, tu le mets au début de la game, il va rentrer en tap. C'est ça. Puis, dans le fond, il y avait le. Ça, c'est le cycle
c'est
des.
Plus, c'est l'inverse.
C'est contraire. C'est contraire.
C'est que si t'as deux lands et plus, il arrive comme un land.
C'est
mais
ça.
Si tu essaies de sortir au début, au premier tour, il va être tapé.
Là, t'es fou.
Deuxième tour, il va être tapé.
Excuse-moi.
C'est ça.
Il va falloir changer le sphinx, il est défectueux.
Ben oui, il est
en tout cas, ils ont complété ce cycle-là. Puis moi, je trouve que ça va bien, ces laines-là. Il y avait le cycle des couleurs alliées dans Midnight Hunt. Puis là, ils ont complété le cycle avec les couleurs ennemies. Puis on voit, là, c'est beaucoup plus la nuit. Hein? Dans Crimson Vow, on est maintenant dans la nuit éternelle. Donc, toutes les basic laines puis les double laines, là, c'est comme la nuit. Mais ils ont trouvé une façon de quand même mettre de la couleur, là, comme le Dead Cap Glade. Là, il y a des gens de champignons lumineux. Là. Puis le Sandbound Pass, on voit la lune là, qui reflète un peu à travers les nuages. Bon, tu sais, c'est quand même cool. Mais je vais vous apporter, avant de continuer, attention sur deux cartes dans Midnight Hunt, le dernier set.
Il y a des vampires.
Ouais, mais il y avait plusieurs cartes de vampires dans l'autre set, là, le set précédent Midnight Hunt, qui faisaient référence au Blood Tithe. Puis ça, je trouve ça vraiment cool ce qu'ils ont fait avec ça. Il y avait par exemple le Vampire Interloper là, qui disait dans le flavor text, les Valdarènes ont commencé à demander des offrandes en sang aux villageois dans leur territoire. Leurs agents arrivent du ciel pour collecter les bols cérémoniales dans le silence. Ou le Blood Tithe Collector, là, où on voit les gens qui montent leur poignet. Là, tu sais, prends mon sang. Fait que Olivia Valdarène qui est la vampire qui règne sur la province de Scendia. Dans le fond, ce qu'elle dit à tous les paysans, c'est désormais, je vous collecte un bol de sang à tous les je sais pas combien de temps, là, mais tu sais, comme elle collecte du sang en masse. Puis la question qu'on se demandait dans Midnight Hunt, c'est pourquoi elle fait ça?
Ben oui!
Moi, je pense qu'elle
avait repeint son château.
On savait qu'elle allait avoir un mariage, on se dit c'est parce qu'elle veut offrir ça à ses convives. Ben, Wizard of the Coast, ils ont livré la marchandise. À partir de ce storyline-là dans Midnight Hunt ne sert qu'à justifier la mécanique du set Crimson Vow, qui s'appelle la mécanique Blood. On voit sur le, par exemple, le land Valdarène Estate, où ce qu'on voit le fameux château des Valdarènes, qui est un land que tu peux payer une vie pour faire une mana de la couleur que tu veux pour casser des vampires ou un mana colorless. Mais tu peux surtout payer 5 colorless pour créer un blood token, dans le fond, un token de sang, que tu peux ensuite activer pour un colorless. Non, cette habilité-là va te coûter un colorless de moins pour chaque vampire. Là, ça, c'est le land. Mais le blood token, ce qu'il fait, c'est que tu peux payer un colorless pour discarter une carte de ta main. Tu sacrifies ton blood token, puis là, ça te permet de piger une carte. C'est un genre de mini
faithless. Extrêmement fort.
Ouais, en fait, c'est un mini clou. Ouais. Parce qu'avant, le clou, c'est deux colorless, tu piges une carte seulement.
Ah, ça ressemble au clou, en fait. Ouais.
En fait, c'est le petit frère du clou.
Puis
Mark Rosewater lui-même le dit. Ouais. Tu sais, dans Ixalan, il y avait les token treasure qui permettaient d'aller dans
le couleur. Le mana de la couleur que tu veux.
Ouais. Puis là, le clou te permettait de piger une carte. Là, ils se sont dit, pour Crimson Vow, la mécanique centrale, c'est les tokens de sang. Ça fait référence à tout le sang qu'elle a ramassé pour son mariage, pour servir. Puis, il y a une carte, j'aime bien, là, le Vampire Vengeance dans Crimson Vow. Deux colorless, un rouge. Ça fait deux dégâts à tous les non-vampires sur la table. Puis tu crées un blood token. Ça dit dans le flavor text, Olivia was quick to make an example of any village that refused to pay the blood tithe. D'autrement dit, les villages qui donnent pas de sang aux vampires, ben, elle les wipe total. Ça va être fort dans les pour se débarrasser du aggro, là, parce que tu fais deux dégâts à tout ce qui est pas vampire dans tes decks de vampires. Tu veux jouer ça?
En instant, on aime ça aussi.
En instant, ben oui, pendant le, sur le stack du attack phase. Fait qu'il y a, je me suis amusé à les compter. En date d'aujourd'hui, le 2 novembre, il y a juste la moitié du set qui a été révélé. Puis, je suis rendu à 21 cartes où on voit des gens qui, soit qui boivent du sang dans une coupe, ou qui lance des pétales de rose, puis que sur certaines cartes, on voit que ces pétales de rose-là se transforment en sang ou en chauve-souris sanglante.
Bon, tabarnak!
C'est dramatique pas mal, tout ça.
Fait que, tu sais, j'avais dit Midnight Hunt, c'était les chandelles qui étaient un peu partout, puis les lanternes. Dans Crimson Vow, c'est il y a du sang un peu partout. C'est pour ça que j'ai pris Blood comme soundtrack.
Bon.
Fait que ça, c'est la mécanique de Blood. Qui dit mariage, hein, dit invitation. Puis là, c'est ça, j'ai trouvé, ils ont vraiment fait comme une espèce de suite logique d'histoire, là. Le Wedding Invitation, un artefact commun, hein, on voit le... Pour deux colorless, tu rentres sur le battlefield, tu piges une carte, tu peux sacrifier ton wedding invitation pour rendre un vampire, pour rendre une créature imbloquable, puis si c'est un vampire, il va avoir lifelink. J'aime bien le artwork, là, où qu'on voit l'espèce de lettre, là, que dans le fond, Olivia Voldaren a envoyé les invitations à tous les vampires pour venir assister à son mariage à elle. Puis ensuite, là, si t'as pas l'invitation puis t'essayes d'aller à son château, ben malheureusement pour toi, ça marche pas. C'est by invitation only. Un sorcery rare dans le blanc. 3 colorless, 2 blancs. Tu choisis un nombre de 0 à 13. Hein? On a déjà parlé que la thématique 13 dans Innistrad est importante.
Non, mais c'est le 0 qui est.
Ouais, mais c'est ça, ouais. Ben non, mais si tu veux pas tuer de créature, mais que tu veux casser un sorcery, c'est correct.
Ouais,
okay.
Ah, mais c'est une flexibilité, là.
Pour activer un prowess, par exemple. C'est, sure. Dans le fond, c'est tu choisis un nombre de 0 à 13, puis tous les joueurs doivent sacrifier le nombre que tu as choisi. Fait que là, ça, c'est bon si tu es en supériorité numérique, là, tu sais, que tu go wide, puis tu as beaucoup de tokens. Tu calls, mettons, tu sais, tu as 4 créatures, puis là, l'autre, il y en a 3, ben là, tu dis 3. Fait qu'il doit sacrifier 3 créatures, puis toi, il t'en reste une. J'aime bien, c'est un Wrath of God avec beaucoup de flexibilité. Puis toi, ça dit dans le flavor text. Lis-nous le flavor text, Tommy.
Hey, the red envelopes guarantee safe passage through the Lurenbrom barrier. Olivia left strict instructions. No invitation, no entry, no exceptions.
Est-ce que tu penses qu'il y a des troublemakers qui vont quand même réussir à se foutre?
Oh, tabarnak! Ben non, c'est sûr, canon.
Lurenbrom, by the way, c'est le nom du château qu'on voit sur Voldaren Estate. Petite référence. Fait que là, une fois que tu as eu ton invitation, hein, mais j'aime beaucoup la carte Wedding Announcement. Il y a une sous-thématique dans ce set-là d'enchantement. Il y a plus d'enchantement que d'habitude. C'est quasiment comme le Constellation dans Terros Beyond Death.
Okay.
Vous allez voir, il y a plusieurs cartes qui interagissent avec les enchantements. T'as beaucoup de flip cards qui sont des enchantements d'un bord puis une créature de l'autre. Le Wedding Announcement, deux colorless, un blanc. À ton end step, tu mets un invitation counter sur ton Wedding Announcement. Si t'as attaqué avec deux créatures ou plus ce tour-ci, tu vas piger une carte. Sinon, tu crées un human token 1-1. Tu sais, ça, c'est comme ses serviteurs qui amènent. Puis si ton wedding announcement a 3 ou plus invitation counter, autrement dit, tu sais, c'est le calendrier. Tu as reçu la lettre d'invitation. Puis là, dans 3 jours, il y a le mariage. C'est ça que ça représente. C'est pas mal cool. Là, on voit sur la carte, là, on voit l'espèce de Madame Vampire avec son Monsieur Vampire. Ils ont reçu l'invitation. Puis là, sont tous contents, là, comme oh my God! Là, ça flippe.
J'aime bien gros le dessin de la Madame. Ouais, ouais. Ma femme. C'est drôle.
devient le Wedding Festivity, qui est simplement un genre de cruiser. Là, toutes les créatures que tu contrôles ont +1/+1. Puis ça dit dans le Flavor Text, les vampires de toutes les familles, les bloodlines, hein, se sont mélangés ensemble. All swelling with pride to be seen at the event of the century. Parce que, tu sais, chez des vampires immortels, l'événement du siècle, c'est le mariage Olivia Voldaren. Je porte attention, s'il vous plaît, sur ce dessin-là. La madame, elle porte ce qu'on appelle un boob window.
Ouais, en effet.
C'est-à-dire que sa robe, elle a un genre de trou, ce qu'on y voit la craque. Ça, c'est un inside joke dans Magic, c'est que dans les vieux sets de Ravnica, puis là, on parle, tu sais, 2013, il y avait beaucoup de personnages qui avaient des boob window. Puis, il y avait beaucoup de madames qui s'étaient plaint de ça à Wizard of the Coast, qui disaient...
En même temps, lui avec un boob window.
Non, mais c'est ça, c'est un boob window universel.
Ouais, mais là c'est comme un genre la réplique, c'est qu'on voit aussi que le monsieur a aussi un beau window. Ils ont l'air pas mal classe, les deux. Puis là, on voit encore, comme vous voyez,
les excellent.
Les deux ont
cette carte-là, c'est vraiment fort, par exemple.
Ben oui. Les
trois, là, c'est...
Ben oui, ça, c'est dans des decks d'aggro mono-blanc. Tu veux mettre ça, là.
C'est
fou. Il crée des tokens 1-1 qui vont ensuite être boostés +1/+1.
Pendant 3 tours de temps, tu sais.
Ouais. Fait que ça, c'est le wedding festivity. Puis là, ben, quand arrive maintenant le moment de se rendre au mariage, ça, c'est la nouvelle mécanique très intéressante du set Crimson Vow, c'est la mécanique Cleave. J'ai pris comme exemple la carte Path to Peril, où ce qu'on voit une espèce de carrosse d'invité qui est en route vers le château de Lurenbrom, le château des Voldaren. Un colorless, deux noirs. Ce que la carte ça fait, c'est que tu détruis toutes les créatures qui ont un mana value de 2 ou moins. Dans le fond, le casting cost de 2 ou moins. Mais cependant, tu peux payer le coût en la mécanique Cleave. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Cleave.
C'est ça que je suis allé checker parce que j'étais comme Cleave, c'est weird.
Cleave,
comme nom,
c'est tranché, mais dans le fond, ce que Cleave fait, c'est qu'il tranche, il tranche des mots, il fend des mots dans le texte de la carte. Fait que ça, pour 4 colorless, un blanc, un noir. Ça dit t'enlèves les mots qui sont en bracket. Puis là, on voit que dans le fond, le destroy all créatures, détruire toutes les créatures, puis ce qui était en bracket, entre parenthèses, c'était avec mana de 2 ou moins. Fait que si tu payes ton Path to Peril à 6, ben là, si tu détruis toutes les créatures, même les gros casting costs. Ça, c'est intéressant comme mécanique parce que ça amène de la flexibilité dans un spell. Souvent, tu sais, un spell qui a un bas casting cost, quand t'es rendu tard dans le game, il est moins fort généralement, puis tu sais, c'est un peu une carte inutile dans ta main. La mécanique Cleave, il y en a pas mal dans le set Crimson Vow, ça permet de donner un ajout, là, tu sais. Fait que là, tu sais, au tour 3, tu fais ton Path to Peril pour tuer toutes les petites créatures, mais quand t'arrives dans les tours 6, 7, 8, là, puis il y a des grosses affaires sur la table, ben, tu peux payer 6 pour les détruire eux aussi. Je trouve ça vraiment ingénieux comme mécanique quand même.
Ça ressemble au FOMO, là.
Ça ressemble
à Kicker, ouais, c'est ce que je veux dire. Mais
Kicker inversé.
Mais comme avec un petit twist, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. On n'a pas encore vu toutes les cartes Cleave.
Ça me fait chier que si tu aies tout le temps besoin de mettre du blanc pour tout péter les monstres. Mais ça me semble correct que ce soit deux noirs, quatre colorless.
Mais je pense qu'ils veulent, ils veulent pousser.
Fort, hein?
Ben, entre autres, mais ils veulent pousser les decks à deux couleurs. Là, fait que
ouais,
les,
moi, les je pense que ça a plus rapport avec l'archétype dans le draft de Crimson Vow, qui est l'archétype noir et blanc, qu'on va parler.
Ouais, c'est ça.
Okay. Ça dit dans le Flavor Text, pour les invités de Olivia, un bienvenue. Pour tout le reste, un avertissement. Parce qu'on voit le long du chemin du carrosse, il y a des gens qui sont plantés sur des pieux. Comme dans quel film, Étienne Lorando?
Comme dans Spartacus.
Non. Non, mais oui, mais c'est pas ça que je faisais référence.
Je sais pas.
C'est au début du Dracula de...
Bram Stoker de...
Ah, mais c'est ce que j'allais dire. J'étais comme trop facile, c'est sûr.
Trop facile.
Je suis trop rendu loin.
Tu parles du sida en deuxième lecture.
Puis, moi, ce que je trouve ça fun, c'est que après ça, la plupart des cartes de vampires dans le set ont rapport au mariage. Là, tu arrives à l'intérieur du château, puis là, il se passe des affaires. Comme t'as le Wedding Security, hein, 3 colorless, 2 noirs, un vampire soldat. À chaque fois qu'il attaque, tu peux sacrifier un Blood Token. On a parlé des Blood Token tantôt. Si tu sacrifies ton Blood Token ainsi, tu peux mettre un +1/+1 counter sur ton Wedding Security et piger une carte. Ça, c'est la sécurité du mariage. Ça dit, in lieu of pay, pour les payer, ils avaient la permission de dévorer n'importe quel visiteur non autorisé. Ou le, tu sais, t'as tout le temps des gens comme ça dans les parties. Hein. Moi, je suis un peu comme ça sur les bars. Glutinous. L'invité glouton, deux colorless, un noir. Ça, c'est vraiment moi, ça. 1-4, cachez vos bières. C'est un vampire. Quand il rentre sur le battlefield, c'est une commune. Hein. Quand il rentre sur le battlefield, tu crées un blood token. Puis à chaque fois que tu sacrifies un blood token, tu gagnes une vie. Puis on voit la madame vampire, elle a deux énormes coupes de sang, puis elle est en train de les caler. Puis on sait très bien, là, tu regardes l'image, puis tu sais qu'il y a un autre cabaret avec d'autres qui s'en viennent. Là.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est... ouais.
C'est bar open.
Bar open. Puis tu sais, quand je dis qui dit mariage, je dis accessoire. Fait qu'ils sont vraiment allés all-in, Wizard of the Coast. Tu vois, il y a le groom finery, qui est le linge de celui qui va se marier. Qui a été... je vais juste finir la carte avant. Le groom finery, c'est le linge du marié. C'est un équipement simplement là, qui coûte 2 à équiper. Ça donne plus 2, plus 0 à la créature. Et plus 0, plus 2 si elle a death touch. Et death touch, tant qu'il est attaché dessus. Là, c'est un peu... Écoupez de créature.
Non. C'est plus complexe. Ça.
C'est vraiment complexe.
Elle a un additionnel plus 0, plus 2. Puis elle a death touch. S'il y a un autre équipement appelé Bride's Gun
sur
un autre
créature. Ah oui, la robe de la mariée.
La robe de la mariée sur une autre créature qui doit probablement avoir une affaire similaire. Là, fait que.
J'avais collé que Sorin Markov allait être celui qui marie Olivia Voldaren dans ce voyage-là.
Terrible.
À mon grand étonnement, non, c'est le grand-père.
Puis ça, je pense qu'Emmanuel l'avait collé.
Emmanuel avait collé, à mon grand étonnement, quand j'ai réécouté l'épisode, Edgar Markov, ils n'ont pas encore sorti la carte pour Crimson Vault, mais on sait qu'il va être là, il la garde probablement pour la semaine prochaine. Ouais. Edgar Markov, qui est un commander banni en duel, en commander 1 contre 1.
Oh ouais.
Oh oui, c'est vraiment trop fort. Edgar Markov, là, qui était sorti dans le Commander 2017, 2-3 colorless, un rouge, un blanc, un noir, un 4-4. On a juste pas parlé au show. First Strike, Ace, quand il est dans son Commander Zone, à chaque fois que tu castes un vampire, un spell de vampire, il va te créer lui-même va te créer un vampire token 1-1. Oh. Puis quand il attaque, tu mets un counter +1/+1 sur tous les vampires que tu contrôles. mais c'est surtout son truc éminence là, qui est dans son Commander Zone. Qui
ah oui, c'est
On avait parlé de lui dans l'épisode de la semaine passée. Là, Edgar Markov, c'est notamment lui qui a créé les vampires sur Innistrad. C'est le grand-père de Sorin. On n'a pas encore les détails de les ramifications politiques de pourquoi Olivia Voldaren veut se marier à Edgar Markov, mais ça serait en lien du fait qu'elle veut devenir la vampire la plus puissante d'Innistrad. Puis ça fait un peu chier Sorin parce que comme on va voir, je veux juste aller sur lui. Sorin, la carte a été sortie. C'est Sorin de Mirthless. Il a vraiment l'air le.
Le gars, t'as
c'est un bon terme de Mirthless, là, c'est cool.
T'as dans le coin d'un mariage qui est comme hostie. Ouais.
Son nom qui est comme Mirthless, ça veut dire pas de fun.
Il veut pas être là. Deux colorless, deux noirs, Planeswalker, Sorin. +1, il y a 4 de loyauté. Son +1, tu regardes sur la première carte de ta librairie. Tu peux la révéler et la mettre dans ta main, mais tu perds le casting cost en vie. Son -2, tu crées un. Ça, c'est Sorin, fait tout le temps ça, créer des vampires. Son -2, tu crées un vampire 2-3 Flying Lifelink. Et son -7, il fait 13 dégâts à un target et tu gagnes 13 vies. Encore la thématique du 13. Donc, Sorin, on ne sait pas trop encore s'il est au mariage pour empêcher le mariage ou qu'il n'y a pas le choix parce que c'est son grand-père. On sait que Sorin, on avait parlé la semaine passée, Sorin a des différends avec Olivia là, parce que Sorin est plus comme. Tu sais, on garde ça slack, là, on tue pas trop d'humains, puis tu sais, comme c'est du développement durable, hein, comme on avait dit.
Ouais.
Alors qu'Olivia, on l'a vu en début de show, et comme je collecte le sang de tout le monde, là, parce que j'ai un mariage à faire. Pas mal cool. Et bien sûr, Olivia, elle est là avec son immense cleavage. Jeu de mots avec la mécanique cleave. 4 colorless, un noir, un rouge. 3-4, Flying Ace, vampire noble. À chaque fois qu'elle attaque, tu retournes une créature de ton graveyard sur le battlefield, tapée et attaquant. Puis elle devient. It gains.
La créature, là.
Ouais. Si, elle reste en jeu si tu as un vampire légendaire sur ton battlefield ou ton vampire Olivia. Si elle n'est pas là, ça fait comme un ball lightning et tu dois la retourner au graveyard. Moi, ce que je trouve cool, puis je suis sûr qu'il va
l'exiler.
Ouais. Oui, c'est encore pire qu'un ball lightning. Moi, ce que je trouve cool, c'est que sa robe, c'est des spirits en sang. Tu sais, c'est peut-être. probablement toutes les victimes de son Blood Tithe. Il y a plusieurs cartes là, que, selon moi, on va voir. Là, parce que, tu sais, on a vu sur la carte du linge à Edgar, le Groom Finery, qu'il y a une carte qui s'appelle le Bride Gown. Mais on l'a pas encore vu, la carte.
Okay.
Concept.
La robe. Ils n'ont pas fini de révéler les cartes, tu comprends?
On veut
juste avoir le set total la semaine prochaine. Puis il y a le carrosse de la lune de miel, le Honeymoon Hearse. Deux colorless, un rouge, 5-5, Trample, c'est un véhicule. Ils ont mis une petite twist au lieu d'écrire la mécanique crew. Ils ont juste dit tu tapes deux créatures que tu contrôles, puis là, il devient un artefact créature until end of turn. Puis on voit que là, au lieu d'avoir des cloches en arrière, c'est des crânes d'humains là, qui
vont faire. Oh, party on!
J'aime que c'est Trample, dans le sens que, tu sais, dansez-vous pas, c'est pas grave, on va vous rentrer dedans.
Moi, je pense que ça va être fort, parce que ça coûte juste 3, puis après ça, tu tapes 2 tokens, 1-1, puis t'as un 5-5. Ouais, fait qu'au tour 3, là, tu perds un, il n'y a pas Ace, mais mettons au tour 4, un 5-5 qui rentre Trample, là, ça baisse vite, hein. On voit la mécanique Blood. Là, je vous parlais les pétales de rose tantôt, là, comme le vol d'arène Bloodcaster. Hein, ça, c'est les demoiselles d'honneur. Mm-hmm. Flying 2-1, qui a 2. À chaque fois que elle ou un non-token créature que tu contrôles meurt, tu vas créer un Blood Token. Puis à chaque fois que tu crées un Blood Token, si tu en as 5, tu vas transformer ton vol d'arène Bloodcaster. Puis il devient le Blood Bat Summoner. Où est-ce que tu vois que ces pétales de rose se transforment en chauve-souris? Là, devient un Wizard 3-3 flying. Au beginning de ton combat, un de tes blood tokens devient une chauve-souris 2-2 flying haste en plus de ses autres types. Ça, je pense que ça va être jouable cette affaire-là. En tout cas, ça va être le fun à jouer.
Je trouve ça cute, le concept des pétales de blood, parce que ça enlève justement le concept que si tu mets trop de sang dans tes cartes, ça peut éloigner des gens qui seraient pas super gros. Là. Ouais. Alors que là, il joue vraiment sur le concept que, ah non, c'est juste des pétales. Puis même le sang qui est bu, on dirait comme c'est plus des coupes de vin que du sang, littéralement. Là.
Eh boy, attends de voir les prochaines cartes, Andy. Okay.
Ah, Andy, c'est planté en public.
Wow.
On a plein de walkers, c'est Chandra. Whoa.
Chandra, Dress to Kill.
Dress to Kill. Wow.
On l'avait mentionné dans les derniers épisodes, Chandra est sur Innistrad, hein, parce que le Gatewatch est là pour sauver le jour. Demandez-moi pas comment, je sais pas, ils vont peut-être l'expliquer à quelque part, mais elle a réussi à se faire inviter au mariage. Elle a une robe en feu. Ils sont allés all-in sur la carte. J'aime bien ce qu'elle fait. Ça va être un fun Planeswalker. Elle a juste 3 de loyauté. Les Planeswalkers de Chandra, ils ont généralement pas beaucoup de loyauté dessus. Plus 1, elle fait un mana rouge et 1 de dégâts à un target player ou un Planeswalker. Ou son autre plus 1, tu exiles la première carte de ta librairie. Si elle est rouge, tu peux la caster ce tour-ci. Fait que dans le fond, tu veux jouer
intéressant.
Ça.
Intéressant.
Puis son moins 7, tu exiles les 5 premières cartes de ta librairie. Tu peux caster les spells rouges ce tour-ci. Ça donne un emblème qu'à chaque fois que tu castes un spell rouge, ça va faire X de dégâts à n'importe quel target. Puis X, c'est le nombre de mana que tu as spendé sur ton spell. Okay. Mais je vous signale qu'elle fait juste monter de plus 1.
Son moins 7,
je pense pas que c'est vraiment bon.
C'est pas réaliste, là. Mais tu sais, le exil, puis... Tu joues ça gratis, c'est jamais chiant. Là.
Moi, je pense qu'elle
va un peu de proliférate.
Je pense pas qu'elle va je pense pas qu'elle va avoir beaucoup de play. Je pense que c'est trop. Le plus 1 fait pas assez de différence. Puis le moins 7 est trop difficile à atteindre. Anyway, NJ Maid of Dishonor, ça va voir du jeu. je vous avais parlé de la semaine passée de NJ, qui est la maître des Falkenrath, hein, les vampires les plus fous. Deux colorless, un noir, un rouge, vampire, légendaire, créature, 4-5. À chaque fois que elle ou un autre vampire rentre sur le battlefield, tu vas créer un blood token.
Une fois par tour.
Tu peux sûrement le faire une fois par tour. Mais cependant, après ça, tu peux payer deux colorless, et ça, c'est à l'infini, là. Tu peux payer 6 colorless, mettons. Pour chaque 2 que tu payes, 2 colorless que tu payes, tu vas sacrifier une créature ou un blood token pour drainer ton adversaire.
Tous les adversaires
de 2 de vie. Ça, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à faire avec ça. Dans un deck de sacrifice, il y a de quoi d'intéressant à faire avec ça. Vous excuserez la basse résolution. Là, c'est un screenshot dans une vidéo. Ils n'ont pas encore sorti la carte pour de vrai. Okay. Fait que ça, c'est parmi les... Lui, je vais en parler la semaine prochaine. Juste finir les mécaniques. La mécanique la plus plate ever, selon moi, c'est un genre de remake du Mentor de Guilds of
Ravnica. Ouais, mais différent, genre.
Ouais. On voit par exemple Apprentice Sharpshooter, deux colorless, un vert, une commune, un Human Archer. On voit qu'elle apprend à tirer de l'arbalète. 1-4 Reach, ça, tous les sets ont ça là, en commune, là, une 1-4 Reach. Elle a Training, la mécanique Training, qu'est-ce que ça fait? C'est chaque fois que cette créature attaque avec une créature qui attaque aussi qui a un power plus gros que elle, c'est pas dur à battre parce qu'elle a juste un power de 1, mais tu veux y mettre un +1/+1 counter sur la créature. Le Training est dans le blanc et le vert, puis il y a un archétype dans le draft de counter +1/+1 qui est très présent dans ce set-là. Le Griff Rider, 2 colorless, 1 blanc, ça c'est l'équivalent dans le commun aussi, là, un 2-1 Flying qui a Training aussi. Fait que là, mettons, tu sais, t'as ton Apprentice Sharpshooter puis ton Griff Rider attaque. Mais ton Griff Rider, il va pas se booster à cause du Apprentice Sharpshooter, mais le Apprentice Sharpshooter va se booster. C'est...
C'est intéressant.
Je trouve que la mécanique, elle manque de saveur par rapport au set. Je comprends pas, parce que là, on est comme à la fin de l'histoire. Je vois pas pourquoi à la fin de l'histoire, les héros de l'histoire doivent s'entraîner.
J'avoue que sa place est weird, mais c'est le fun, le concept de l'inverse de Mentor. Parce que c'est littéralement comme Mentor, mais à l'envers. C'est Mentor, c'est la créature grosse qui décide qui va gagner un compteur, tandis que là, c'est l'inverse, c'est la créature petite qui va décider caca monde d'un, là, je trouve ça
le il s'entraîne. Ouais. Puis l'autre, le Disturb revient dans ce set-ci, sauf avec une twist vraiment intéressante, très différente de Midnight Hunt. Dans le fond, Disturb, c'est la mécanique des spirits, là, les fantômes. Dans ce set-ci, le fantôme, il revient en aura qui enchante une créature. Puis il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a plus de Disturb dans ce set-là que dans l'autre. Parce que dans le fond, l'aura fait des mécaniques qui sont très communes. Là. Je vais vous donner un exemple. Le Kindly, check ça comment c'est cute. Le Kindly Ancestor, deux colorless, un blanc pour un Spirit 2-3 Lifelink. Puis on voit, c'est une espèce de fantôme de grand-mère qui est en train de faire du tricot, vous voyez?
Oui.
Okay. Si elle s'en va au Graveyard, tu payes son Disturb Cost, un colorless, un blanc. La carte, elle revient comme un aura. C'est le Ancestor Embrace, où on voit une bergère qui a mis le fameux coat que le fantôme est en train de tricoter. Tout simplement, c'est que c'est un aura qui donne lifelink à ta créature. Puis ça dit dans le favorite text, « Thank you, grandmother. I love you too. » Donc c'est
le
rare.
Le premier, ça dit « You look cool, dairy. »
Tu sais, c'est rare qu'on a des affaires... ça fait changement du sadique qu'on voit dans les autres cartes d'habitude. Là, c'est comme du cute.
Ben là, on est dans un set de vampires puis de mariage. Là. Tout est sadique là-dedans.
Là. Oui. Lantern Bearer, je vais donner un autre exemple. Là. Dans le bleu, parce que Disturb, c'est blanc et bleu. Lantern Bearer pour un bleu, un Earth Flying. On voit le fantôme qui vole avec ses espèces de lanternes flottantes. Pour là, tu payes deux. Si ça va au Graveyard, tu payes deux qu'on le laisse un bleu. Puis là, il revient en aura. C'est Lantern Lift, où on voit une humaine qui s'est attachée les fameuses lanternes. Puis là, elle a +1/+1 et Flying. Fait que,
c'est cute parce que les Disturb, leur flavor text, les deux se répondent. Le premier, c'était comme ah, t'as l'air d'avoir fret. Puis là, merci grand-mère, je t'aime aussi. Puis là, ça dit
You look cold, dearie. Ouais. Là, ça dit Val didn't know what the silent gaze was offering, but she knew it will be rude to refuse.
C'est cute.
Je vais pas en montrer d'autres, là, mais vous allez voir, les Disturb, c'est toutes des mécaniques vraiment communes. Il y en a une qui donne double strike, il y en a une autre qui donne first strike.
C'est toujours des enchantements, des auras dans celui-là?
Oui, dans le fond, le Disturb, tu le mets en jeu, c'est un fantôme. Ton fantôme, il meurt, il s'en va au graveyard, mais tu peux le ramener en puis aura.
C'est quand même savoureux, c'est flavorful.
Puis c'est concept avec Midnight Hunt, parce que Midnight Hunt, c'était des humains qui devenaient, tu faisais Disturb, ils devenaient des spirits, puis là, les spirits
qui des Disturb
encore plus, puis ils deviennent des enchantements.
Oui, bien vu, Andy. Les loups-garous sont de retour. Il y en a pas mal. J'en ai mis un ici comme exemple. Là. Ça, je pense, ça va avoir beaucoup de jeux. Le Volatile Arsonist. 3 colorless, 2 rouges, un loup-garou. Dans le fond, le Daybound et le Nightbound sont de retour dans Crimson.
J'espère, tu sais.
Menace, Haste, 4-4. Chaque fois qu'il attaque, tu fais un dégât à chaque. Tu fais un dégât à une target créature, à un player et à un Planeswalker, s'il y en a. Puis s'il se transforme en werewolf, autrement dit Daybound, si un joueur n'a pas casté de spell ce tour-ci, le tour après, ça devient la nuit. Fait que là, il flippe. Il devient le Dire Strain Anarchist, et qui est un 5-5. Puis il y a la même chose, il menace Haste. Quand il attaque, il fait 2 de dégâts à une créature, à un player et à un Planeswalker. Il y a beaucoup de gens qui ont d'analystes qui ont comparé cette carte-là au Glorybringer de Amonkhet. Puis le Glorybringer avait vu beaucoup de jeux dans le standard de l'époque. Fait qu'on va voir si ça va encore être le cas. Mais tu sais, payer 5, surtout si c'est la nuit, là, tu payes 5, tu as un 5-5 menace Haste qui rentre en jeu. Tu sais, l'autre, il y a juste 20 vies. Là, fait que tu touches 2-3 fois la
moitié. Ouais, c'est ça. Avec Haste puis Menace, ça va vite. Là.
C'est ça, j'étais pour dire. Là, comme pouvoir de Haste et Menace, c'est quand même assez versatile. Puis dès que tu le déclares comme attaquant, tu peux faire un dommage à une créature qui a une toughness pour probablement l'achever pour lui permettre de passer Menace ou permettre à un autre de tes petits monstres de passer. C'est bien, bien pratique, ça. Je dirais pas que je l'aime. Là. J'ai hâte de voir c'est quoi son opinion sur la vaccination, là, mais ça va bien. Ça commence bien.
Moi, j'ai une question, parce que moi, j'ai jamais vraiment joué physiquement là, avec des cartes qui ont 2 côtés. Ah. Puis là, il y a bien du werewolf, là, puis des affaires qui flippent dans les derniers sets. Sur Arena, comme ça va bien. Tu sais, c'est comme automatisé. Mais dans la vraie vie, là, est-ce que vous mettez vos sales doigts dégueulasses dans vos sleeves et vous touchez
la dernière fois, il y a quelqu'un qui a crissé son cœur à cause de ça.
Pour vrai? Raconte, Henry.
Ben, je veux pas le disser parce que c'est on le nommera pas, mais c'est pas grave.
La frustration un peu te.
Mais tu te rappelles que j'avais callé out avant Midnight Hunt en disant ah, c'est bizarre, le blanc, puis tu sais, comme le soleil, puis la nuit, mettons, pour les disturbs, c'est pas normal, le monde va être confus par rapport aux
des bandes. Il était confus entre ce qui était des bandes puis ce qui l'était pas. Oui, ça, c'est une erreur qu'ils ont fait dans ce set-là. C'est que,
exactement. Fait que ça a rendu la chose un peu confus.
Ouais, c'est
mais non, mais ce qu'il aurait dû faire, c'est le symbole de le mettre que pour le Daybound puis Nightbound.
Mais c'est pas ça la question d'Étienne. La question d'Étienne, c'était plutôt est-ce que c'est
comme
pratique?
La logistique de
la logistique des flip cards. Mais ça fait 10 ans qu'il y a des flip cards, puis ça n'a jamais
pas si pire. Ça te prend des sleeves. Des sleeves pas blancs, là.
Tout le monde sleeve leur deck.
Transparent, là.
Tout le monde sleeve leur deck, puis de toute façon, chaque booster a une carte avec un dos de Magic que tu t'écris dans le fond le nom de ta carte. Ça, c'est si t'as pas de sleeve. Puis là, quand elle flippe, ben, tu la mets en jeu quand t'as casse, mais sérieux, ça n'a jamais été un problème. Ce qui est un problème, c'est que t'as certaines cartes qui flippent qui ont des bandes Nightbound, t'as certaines cartes qui flippent qui sont Disturb. Ça mélange.
Puis que si tu regardes plus haut, gars-tu, ils ont les mêmes symboles. C'est ça qui rend la confusion.
Le soleil et la lune dans le coin.
Hein? Moi, j'ai quelque chose pour régler votre concept de confusion. Là.
Attention.
Chino qui est dans la place. On va profiter du graveyard.
Chris est habillé en machine.
Graveyard! Sublime. Peux-tu faire un Disturb?
Oui. Pour l'Halloween.
Disturb! OK, peux-tu en faire un autre de ton choix? Trample?
Dis qu'il fait un Blood.
Ben, j'aurais été avec lui, mais là, vu que tu me demandes lui, je vais faire un Flying!
Asti qui connaît ça, hein? Chinook, la magie.
De plus en plus, là.
Merci,
à 4, toi. Là.
Merci, Chinook.
Race!
Quel homme! Donc, on continue, la
dernière mécanique, puis on va arrêter là pour asseoir, c'est la dernière mécanique qu'il y a dans le set, c'est Exploit. Exploit se retrouve dans le bleu et dans le noir, surtout chez les zombies. Ça, c'est une mécanique qu'on avait vue dans Dragon of Tarkir. Allez voir notre épisode sur les Sultai. Mais elle est revenue dans Crimson Vow et encore plus fort. Par exemple, j'ai ici comme exemple, ça je pense que ça va avoir beaucoup de play aussi, le Graph Reaver, un colorless, un noir, check ça Tommy. C'est un zombie warrior 3-3.
Tabam!
Il te fait, jusqu'à là c'est un 3-3 pour 2, c'est déjà beaucoup. Au beginning de ton upkeep, il te fait 1 de dégâts. Mais, il y a exploit. Puis c'est quoi exploit? C'est que quand ta créature qui a exploit rentre sur le battlefield, tu peux sacrifier une créature et là, il va y avoir un effet.
La
créature que tu peux sacrifier, ça peut être lui-même, le Graph Reaver,
voilà,
ou un token qui traîne, là, par exemple un zombie token. Le Graph Reaver, ce qu'il fait, c'est que quand il exploite, tu peux détruire une créature. Tu peux détruire un Planeswalker. Fait que, c'est un genre de terreur pour les Planeswalkers.
Très pratique.
Mais qui te coûte juste 2, tu sais. Puis c'est rare les spells là, aussi clean que ça qui target un Planeswalker.
Ah oui, effectivement.
Pas de carte de sideboard pour régler le cas des Planeswalkers. J'en ai un en exemple.
Même malgré le désavantage d'un dommage que tu reçois par upkeep, un monstre 3-3 qui coûte 2.
Ouais, ah oui, zombie, c'est pas comme être bon dans le jeu. C'est un très très bon creature type.
Puis checker les zombies bleus, c'est les zombies Frankenstein. Là. Le Overcharge Amalgam, 2 colorless, 2 bleus pour un 3-3. Flash Flying, fait que Flash, tu peux le caster en instant. Il y a Exploit, puis si tu exploites, soit que tu sacrifies lui-même ou un token qui traîne, tu vas counterer un target spell, une habilité activée ou un trigger ability.
Oh tabarnak!
Ouais, c'est du counter-counter. Là.
C'est versatile.
C'est très versatile. Ouais. Tu sais, là, tu dis, je tape mon Llanowar Elf pour faire un manœuvre, mais. Tu fais ton overcharge.
Je fais mon moins 7 pour créer un emblème, puis tu crées ça. Ça ouais. Tape, puis ton emblème, il est pas là.
Fait que tu sais, c'est exploit, ça va beaucoup être exploité. C'est vraiment le fun.
Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un mais. Fait que t'es pas obligé de le sacrifier.
T'es pas obligé. Mais moi, je me rappelle dans les.
3 flying pour 4 qui est en flash. Juste ça, c'est bon.
C'est bon aussi.
Ah oui. Ouais. T'as casse autour de l'autre. C'est du card advantage. Là, t'enlèves une de ces spells qui a sorti. Puis tout est rendu qu'un un gros zombie flying. Dans Dragon of Tarkir, c'était vraiment le fun de rafter du bleu-noir exploit. Fait que je pense que ça va être encore la même chose cette fois-ci.
Bon.
Fait que, écoute, la semaine prochaine, on va probablement faire le guide du draft, puis éventuellement, vous allez voir, le mariage d'Olivia Valdarène va pas se passer comme elle voudrait.
Non.
Il va y avoir des party crashers.
Il avait l'air de tellement s'aimer dans l'amour.
Comme dans Midnight Hunt, il y a comme tout ce crash tout le temps.
Ouais.
C'est vrai, hein? C'est vrai.
Et à ma grande déception, ça va finir avec un happy ending.
Sûrement.
Bon, pauvre Jason.
Mais Andy va être content parce que Coucou ne revient.
Ah. Mais là, à date.
Là, ça se termine. Ça commence quand, celui-là? Là? C'est la semaine prochaine.
Mardi prochain, quand on va enregistrer, on va avoir toutes les cartes.
Puis c'est jeudi que ça commence sur Arena, genre.
Puis je pense que c'est la semaine suivante que ça commence sur Arena. Non, je pense c'est vraiment la semaine prochaine, c'est ça, le 11.
J'ai-tu bien vu? Parce que quand tu te montres des cartes, il y a comme 10 sur 277. Ça veut dire que le set qui s'en vient, le Crimson Bow, ça va être encore 277 nouvelles cartes. Ça en fait quand même un petit paquet.
Ben, c'est un full set, là.
Ouais.
Il n'y a pas une affaire qui allait sortir comme un set avec les deux sets Innistrad comme dans la même box.
Au mois de décembre, ils vont mélanger les deux sets, le Midnight Hunt et le Crimson Bow. Puis là, tu drafts les deux ensemble.
Pas drafter comme un.
Ce qui est une expérience totalement différente parce que. Oui, c'est ça.
Puis, mais en même temps, si on fait ça tout croche comme la dernière fois, là.
Oh!
Quand on a drafté, il n'y avait même pas. Des fois, il y avait des decks, des paquets qui n'avaient même pas de rares ou de.
Ouais, mais ça, c'est le problème des chaînes d'approvisionnement qui touchent tous tes secteurs. Là.
Mais il faut qu'il règle ça.
Il y a eu beaucoup de boîtes qui, effectivement, il y avait eu des problèmes.
C'était pas mal décevant comme draftage. Il y a du monde qui sont ramassés avec zéro rare en 3 shots de draft. Là, fait que c'est push en Christ.
Ouais. Aucun refund.
c'est quoi, c'était voulu ça, Jason?
Non, c'est une erreur. Ils ont même fait un press release.
Okay.
Je vais vous avouer que j'ai pas lu parce que j'ai pas eu la chance. Moi, je joue juste du vieux Magic. Mais il paraît qu'il y a eu des problèmes à l'impression. Puis, j'en ai une autre drôle d'anecdote. Là, attends un peu, je vais vous la montrer. Il a révélé pire que ça.
Tabarnak.
Magic va mourir.
On a appris aujourd'hui que le Wizard of the Coast, c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Mais tu sais, tu fais un moment donné comme, ben voyons donc, il faut juste que je retrouve la carte.
Et en fait, moi, j'ai quelque chose pour vous autres hein, que j'ai trouvé sur un forum. Là, mais si tu replaces les lettres de Mark Rosewater, ça fait adrénochrome. Fait qu'on serait probablement en train de jouer à quelque chose, le pédoplaniste.
OK, le Blood Vial Purveyor, encore une... Ça, c'est un des fameux qui ramasse le sang dans les villages. Je vais pas tout décrire la carte, là, mais c'était deux colorless, deux noirs, un 5-6 vampire, flying, trample, puis à chaque fois qu'un adversaire casse un spell, tu crées un Blood Token, puis à chaque fois que lui attaque, le Blood Vial Purveyor, il gagne, tu vois, c'est écrit, il get +1/+0 pour chaque Blood Token que ton adversaire contrôle.
Ouais, là, t'as mal lu la carte, là, c'est, au début, c'est à toutes les fois qu'un adversaire fait un spell.
Ah, c'est ce joueur.
Oui, oui, oui. C'est parce que je voulais arriver au point, là. C'est surtout ce qu'ils ont oublié de mettre. Ils ont oublié de mettre le Until Enough Turn.
Ah!
Puis ils l'ont avoué. Ils l'ont avoué aujourd'hui dans un autre press release que c'est une erreur d'éditing. Puis ils avaient fait la même chose dans Ravnica Allegiance. Il y avait un instant qu'ils ont oublié de mettre le Until and After. Ouais,
Magic était mort, saignant à terre, puis tout. Puis ils nous sortent de quoi l'achever encore. Pauvre Magic.
Mais je trouve ça marrant, tu sais, c'est une erreur, c'est quand même une erreur majeure, là, parce que comme...
Ouais. Ben oui, on le voit ici à droite, là.
Ouais, mais de toute façon, ce jeu-là, il y a rien qui reste de manière permanente sur la carte s'il n'y a pas de token, non? Il y a comme toujours quelque chose qui t'indique, c'est pas genre...
Mais c'est ça, parce que...
à côté, là, avec une feuille ou je sais pas quoi, là.
Ouais, tu sais, les joueurs vont savoir que c'est Until and After, mais des joueurs nouveaux pourraient être confus. C'est pas une erreur dramatique, ça va pas tuer Magic, parce qu'on a vu que Magic est pas mal plus tough que ça. Écoute, même Étienne Laurando est revenu à jouer, mais bon.
Check ça à face.
Magic a 1 virgule regenerate.
Ouais, effectivement. Puis, fait que c'est quand vous faites votre draft, Étienne?
Ça reste encore à vérifier, mais ça risque d'être fin novembre.
OK, c'est bon, j'accepte ton invitation. On va y aller.
D'accord.
Mais tu vas avoir du fun. Forgotten Realms, c'était le fun.
Ouais, je l'ai drafté sur Arena. Puis j'ai beaucoup aimé Forgotten Realms, d'ailleurs. J'ai pogné deux Drist d'Urden, puis je me suis fait un deck avec ça. C'est drôle.
C'est un crapiste.
Ouais.
N'est-ce pas avec ça?
Ça y allait.
Il vient-tu avec une panthère, hein? Il vient avec une panthère.
Ah, ben,
ouais, il fait le token.
Il vient avec deux panthères.
Ouais,
parce qu'il y en a deux.
Ouais.
Là, les
panthères. T'as-tu le token qui va avec?
Ben, c'était sur Arena. Fait que
ça compte pas.
Donc, oui.
Donc,
Magic Digital.
Le token était là. Ouais.
T'as pas connu ça, Étienne, à l'époque où il fallait faire des quêtes pour trouver le token qui va avec la carte?
Je m'en souviens.
Là, tu t'en vas dans le magasin, puis tu dis, t'as-tu ce token-là? Puis là, il dit, non, on l'a pas. Puis là, t'es comme,
Ouais, il y a des tokens qui coûtaient genre 2,50.
Il y a des tokens qui valent vraiment cher. Il y a des tokens qui valent vraiment cher.
Et nous, t'as rien qu'à aller dans une pièce où est-ce que, tu sais, dans une place comme, mettons, le valet de cœur, où est-ce que t'as des figurines, puis t'as rien qu'à l'acheter, là, cette petite panthère figurine de
Pocket Arena.
Là, tu sors, là, ce petit token littéral.
Oh, Wendy!
Ouais, mais comment tu voulais là? Mais nous autres, j'ai plein de cartes de plein d'autres jeux, fait que des fois, j'utilise ça, ou des cartes rando, là, pour faire les tokens.
Bon, écoutez, merci messieurs, je pense que ça va nous amener à la fin pour cette semaine. On remercie Étienne de s'être déplacé, d'avoir pilé sur son orgueil et d'avoir rouvert le folder Magic dans sa vie. Mais ça va être pour le mieux pour tout le monde. Tiens au courant hein, si ça devient un problème, la consommation.
Je vais t'envoyer un message, Tommy, pour te dire, là, je suis plus capable, là, j'ai plus de maison.
Ben, on est là. Il n'y a rien de mieux que des users pour aider les gens qui sont comme trop.
J'ai pris le téléphone du gars qui vient de me donner 100$ pour une demi-heure. Puis,
là, vends ton Mox Diamond, là, puis t'es envoyé.
Hey, j'ai tout ça, là. Non, j'en ai un. En tout cas, anyway, merci Andy. Merci Andy aussi d'être passé dans tes erreurs les plus pires.
Entre autres.
Merci Nonours
d'avoir été à Magic.
Oui, effectivement, les choses se passent. Et merci aussi Jason d'avoir monté, préparé et géré la patente. Merci à Martin qui s'occupe du montage. Merci à Bond pour le beat, à l'Abyss, à Milan aussi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et merci à ceux qui gèrent la communauté en ligne. Ça va nous amener aussi à vous informer que Terrain Basique est disponible sur Spotify, même si c'est l'endroit du démon. Allez chercher vos bands sur Bandcamp. Hein. C'est la plateforme qui donne le plus d'argent aux créateurs. Il faudrait qu'on soit sur Bandcamp. Comme ça, tout le monde est sur Spotify. Ils ont gagné la guerre. Tout le monde, vendez votre âme à Satan. Fuck la culture. Là-dessus, ça nous amène à la fin de l'émission. Mon nom est Tommy Godette et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascou possible.
Famille H2O Web Media.